Gloire au Seigneur. Nous sommes très heureux, mon épouse et moi, d'être avec vous en cette soirée et dans la journée de demain pour partager la présence de Dieu, la parole de Dieu. Nous enchaînerons avec une mission à Béziers. Priez aussi pour ces journées là-bas afin que le Seigneur les bénisse. Nous vous apportons les humides et fraîches salutations de la Normandie. Parce que le temps que vous avez à préparer pour nous accueillir cet après-midi, c'est le temps qu'on a 9 mois dans l'année. Gris, pluie, vent, enfin il y a du soleil de temps en temps, rassurez-vous quand même. Voilà, enfin nous sommes très heureux d'être là et nous souhaitons vivement dans le Seigneur que ces temps que nous passerons ne seront pas vains. Nous ne voulons pas nous assembler pour multiplier des réunions, mais nous voulons nous assembler pour devenir meilleurs. Le temps est très court, je crois que les intentions du Saint-Esprit sont claires, elles l'ont toujours été dans ce domaine-là, mais plus que jamais avec les temps que nous vivons, je crois que le désir du Saint-Esprit qui est notre Éliézer divin, c'est de rencontrer la future épouse, de l'embellir, de la préparer pour les noces de l'agneau. Je crois que le temps plus que jamais est un temps de sérieux, d'écoute du conseil de Dieu, de consécration, de mise en ordre, de purification de nos vies, afin que lorsque Jésus va paraître, comme il l'enseigne dans l'Évangile, nous soyons trouvés debout devant le Fils de l'homme. Et je crois que c'est le désir de chacun de nous. Le dernier chapitre de la Bible nous parle des soupirs et des désirs de l'Esprit. Et l'Église qui vit la vraie Pentecôte, la véritable union avec le Saint-Esprit, est à l'unité et à l'unisson de ses sentiments, et nous disons « Amen, viens Seigneur Jésus ». Il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des luttes, des larmes, des frustrations, des déceptions, mais le meilleur est devant nous. Nous allons bientôt partir. Pour le meilleur, pour le royaume de Dieu. Que cette soirée nous aide donc dans ce domaine-là. J'ai eu à cœur de partager avec vous, ce soir et demain soir, quelques enseignements de l'Écriture concernant la communion de Dieu. Nous serons avec lui pour l'éternité, et il y a une école de Dieu pour que nous apprenions à être avec lui maintenant. La parole de Dieu nous dit que Dieu est fidèle et qu'il nous a appelés à la communion de son Fils. En écrivant ces lettres, l'apôtre Jean disait aux destinataires de ces lettres que le but était qu'ils soient en communion, ces chrétiens, avec eux. Et Jean écrit « Notre communion est avec le Père » et avec son Fils Jésus-Christ. Et puis, dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, un seul souffle. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la puissance et à la profondeur de ce verset. Être un seul souffle, être un seul esprit avec Dieu. Pouvoir penser comme lui, avoir les dispositions de cœur de Dieu, pouvoir réagir comme il réagit, avoir les sentiments de Dieu, en tout temps être capable d'avoir le comportement de Dieu. Nous sommes loin de ces choses. Je ne veux pas vous démoraliser ce soir, mais créer en vous un vif désir. Nous sommes loin de ces choses. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur et de dire « Seigneur, permets que les fleuves célestes soient déversés en nous, que nous ayons part à cette glorieuse visitation de l'Esprit. Tu as promis que des fleuves d'eau vive couleraient de notre être intérieur, non pas un ruisseau, non pas un fleuve, mais des fleuves. Seigneur, viens irriguer nos vies, que le Saint-Esprit prenne de ce qui est à Jésus, et puisse le manifester, le former en nous pour ta gloire, afin que nous marchions de force en force, de victoire en victoire, de gloire en gloire, que nous soyons imprégnés de la vie d'en haut. Je voudrais lire le texte ou le chapitre qui nous préoccupera ce soir et demain soir, demain après-midi. Nous aurons un enseignement pour les couples. Si le Seigneur le permet, nous partagerons quelques textes de la parole de Dieu pour perfectionner l'harmonie du couple. J'ouvre une parenthèse ce soir pour dire que dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Que ce soit sédentaire ou gitan, je crois que le diable est le même pour tous et que nos foyers ont besoin d'apprendre à se fortifier dans le Seigneur. Et nous verrons comment l'homme et la femme peuvent mieux vivre dans l'unité, tous les deux, sous le regard du Seigneur. Et quelques conseils de l'Écriture pour que le foyer soit fort et solide. Donc si les couples sont libres demain après-midi, mais je pense que les annonces seront faites à ce sujet, nous pourrons nous retrouver devant la face de Dieu. Nous lisons dans la Genèse, au chapitre 18, pour ceux qui pourront suivre la parole de Dieu. Sinon, écoutez attentivement, la lecture sera longue, mais elle est indispensable. Genèse 18. L'Éternel lui apparut, il est question d'Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit au contraire, « Tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice ? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Nous allons arrêter ici cette lecture, et puis nous allons prier ensemble le Seigneur afin qu'il bénisse sa parole pour notre vie ce soir. Dispose favorablement notre cœur, Seigneur, par ton esprit. Éveille notre oreille ce soir, afin que nous écoutions comme écoutent les disciples. Entraîne-nous après toi. Nous savons qu'il y a une sagesse que les chefs de ce siècle n'ont pas connue, parce que s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais nous savons, nous ton peuple, ce soir, que nous sommes des enfants privilégiés. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Et ta parole nous dit que tu les révèles par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et ce soir, nous avons soif de cela. Recevoir les choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Descendre avec l'Esprit de Dieu jusque dans les profondeurs divines afin d'être nourri, rassasié, consolé, relevé, restauré, corrigé, réveillé. Seigneur, qu'il y ait une action de l'Esprit selon les besoins de chacun. Et comme nous l'avons entendu, alors que nous sommes là pour nous préoccuper du conseil de Dieu pour les croyants, s'il y a là une âme qui ne t'appartient pas, qui a hésité, qui a été rebelle, que ce soir l'onction de l'Esprit l'atteigne et qu'elle capitule devant toi. Tu es capable des plus grandes choses dans les cœurs, dans les corps, dans les foyers. Permets que ce soit une soirée richement bénie sous ton regard. Au nom de Jésus, amen. Nous comprenons bien, à la lecture de ce chapitre 18 de la Genèse, que le Saint-Esprit a quelque chose à nous enseigner concernant la communion de Dieu. Et je voudrais souligner ce soir, même si nous ne voyons pas en détail les choses ce soir dans cette seule réunion, mais souligner les trois aspects ou les trois privilèges qui s'attachent à la communion de Dieu, c'est-à-dire le fait d'être proche de lui, le fait d'être en sa présence, le fait qu'il peut, lui, s'approcher de nous, nous parler et agir en nous comme il le désire. Il y a ce que nous appellerons les prolongements de la communion de Dieu dans ce que nous lui apportons. Et je vais le résumer en deux mots, à Dieu. Il y a aussi ce que Dieu peut nous communiquer dans le moment de communion que nous avons avec lui. Je vais le résumer en deux mots aussi, avec Dieu. Et il y a ce que nous comprenons alors et que nous aurons besoin de partager devant le Seigneur, comme Abraham l'a fait. Je vais le résumer aussi en deux mots, devant Dieu. À Dieu, avec Dieu, devant Dieu. La communion de Dieu, c'est le moment où ces trois voyageurs s'arrêtent pour parler à Abraham. Avec Dieu, c'est la révélation, c'est ce que le Seigneur va déposer dans le cœur d'Abraham. Devant Dieu, c'est l'intercession de ce Père des croyants. Communion, révélation, intercession. Voilà ce que le Saint-Esprit me semble nous apporter entre autres dans ce chapitre. J'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur ce soir sur ce qui favorise la communion de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu ne vient pas comme ça, dans une vie, dans un foyer ou dans une église. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour connaître ce que la parole de Dieu appelle la communion avec Dieu. Les choses du Seigneur sont sérieuses, elles sont profondes. Je ne peux pas m'être occupé de choses futiles, mondaines, dans les 5 minutes qui précèdent, et d'un seul coup, bénéficier d'une communion intense avec le Seigneur. Je ne crois pas à cela. Il y a des conditions à remplir pour entrer dans la communion de Dieu, et le premier verset de notre chapitre a beaucoup à nous enseigner. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ce verset est chargé, vous allez le voir, d'un enseignement extraordinaire de la parole de Dieu concernant les conditions à remplir pour bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies. Même si le style de vie de l'époque était bien différent du nôtre, Abraham ne mangeait pas certainement comme nous, il ne s'habillait pas comme nous, il n'avait pas les moyens de locomotion que nous avons, il n'avait pas Internet, les portables, le style de vie était bien différent du nôtre. Mais Abraham avait, comme nous, relisé son histoire dans la Bible, ses préoccupations, ses soucis, ses combats, ses faiblesses, ses moments de défaillance. Et bien que son époque soit différente de la nôtre, Abraham trouvait du temps. Il avait une vie avec Dieu, une vie élevée, une vie vraie, une vie intime. D'ailleurs, ce chapitre nous fournit un bel exemple dans la vie d'Abraham de ce qu'est une vie de séparation et d'obéissance. Je crois que l'un des besoins les plus fondamentaux, les plus urgents aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu ait du temps pour son Dieu. Et que nous ne puissions pas nous laisser aspirer par les choses dévorantes de la terre. Le Saint-Esprit a lancé un appel très urgent au travers de l'apôtre Pierre quand il dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Le chrétien qui sent que nous sommes entrés dans les temps de la fin, que Jésus est à la porte, que les temps sont comptés pour l'Église et pour le monde, va désirer cette sagesse et cette sobriété dans sa façon de vivre, afin de pouvoir jouir de la communion de Dieu. Tout croyant authentique est un enfant de Dieu. Et nous n'allons pas remettre en question ce soir le domaine du pardon, du salut, de la justification par la foi. C'est une chose acquise pour tout enfant de Dieu. J'ai 5 enfants. Ils ne sont plus à notre charge aujourd'hui. Mais je sais que c'est une chose d'être un enfant. C'en est une autre que d'être un enfant obéissant. L'enfant, vous lui avez communiqué la vie, vous l'avez engendré. Mais la relation que l'enfant va avoir avec vous après, c'est une autre affaire. Et la véritable question que nous allons nous poser ce soir, nous chrétiens, n'est pas de savoir si nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes. Mais c'est de savoir quelle sorte d'enfant nous sommes pour le Seigneur. Je suis un enfant, ok, on ne remet pas ça en question. Mais est-ce que je suis un enfant obéissant, qui a une relation d'amour avec son père? Est-ce que je suis un enfant séparé du monde, qui va rejeter ce que le père rejette parce que j'ai à cœur de lui être agréable? Quelle sorte d'enfant, quelle sorte de famille représentons-nous ce soir devant le Seigneur? Quelle sorte de fils je suis pour mon Père Céleste? Quelle sorte de fille je suis pour mon Père Céleste? Permettez-moi de m'arrêter, on va prendre le temps qu'il faut, sur ce verset premier qui pose les bases de notre communion avec Dieu. Chaque mot est important. Le Saint-Esprit me présente Abraham comme un homme assis. Comme il était assis. Je voudrais déposer dans ton cœur, mon frère, ma sœur, ce soir, cette première pensée. Abraham s'accordait un temps de repos. Il savait s'accorder un temps de réflexion, un temps d'examen, un temps de méditation, un temps de prière, un temps de récupération de forces nouvelles pour la continuité de la marche et pour l'achèvement de la tâche. Et j'aimerais que nous nous posions cette question, elle est très importante ce soir. Est-ce que le Seigneur trouve en moi, aussi souvent qu'il le souhaite, un homme assis, une femme assise? Est-ce que je prends le temps de m'asseoir vraiment à ses pieds, comme Marie? Ou est-ce que je suis toujours derrière mes casseroles comme Marthe? Et je ne parle pas seulement à mes sœurs qui doivent, bien évidemment, s'occuper des soins domestiques. Les frères ont leurs casseroles aussi. Le diable s'arrange pour que tous les croyants aient leurs casseroles. La vôtre, ce n'est pas forcément la mienne. Mais il y a tellement de casseroles qui nous empêchent de nous asseoir. Abraham était un homme assis. Il avait du temps. Et c'est dans cette position-là que Dieu apparaît à son peuple. C'est dans cette position-là que Dieu se révèle. Nous avons besoin de direction, de conseil, de consolation. Et ce ne sont pas les robinets célestes qui sont fermés. C'est nous qui ne prenons pas le temps de nous asseoir. À l'époque des fast-foods, à l'époque où tout va vite, à l'époque où je mets une pièce et je n'ai que le tiroir à amener vers moi pour prendre ce qui me convient, nous pensons qu'avec Dieu, ça fonctionne comme ça. Et le Saint-Esprit, ce soir, me dit, écoute, j'ai besoin d'un peuple assis. J'ai besoin d'un peuple assis. Un peuple qui va prendre du temps. Arrête-toi de t'agiter, de t'exciter, de te démener. Prends le temps de t'asseoir. Ça va être du temps de gagner. Avons-nous du temps pour les actions de grâce, pour les multiples bienfaits du Seigneur? Assis. Du temps pour la purification de nos cœurs à ses pieds. Du temps pour que le Saint-Esprit vienne fouiller les moindres replis de ma vie. Pour qu'il me dise encore ce qui a besoin d'être changé, d'être purifié, nettoyé, relevé. Du temps pour la correction de nos erreurs. Du temps pour prendre des résolutions nouvelles. Du temps pour recevoir de nouvelles instructions de la part de notre Dieu. Assis. Où? Le texte dit « à l'entrée de sa tente ». Rien n'est écrit au hasard dans l'Écriture. Parce que Abraham était assis, mais assis dans un temps d'isolement, de mise à l'écart. Abraham est seul et il est à l'entrée de la tente parce que dans la tente, c'est l'activité, c'est là que tout se passe pour le foyer. C'est là que toute la vie familiale s'organise. Or, dans ce moment-là, Abraham accepte de rompre avec l'activité intérieure de la tente pour s'asseoir à l'entrée. Est-ce que nous savons nous isoler? Ou est-ce que nous avons toujours besoin d'un tourbillon de gens autour de nous? Je suis toujours inquiet chez les sédentaires. Je ne vous connais pas assez pour dire les choses qui vous concernent. Mais je suis toujours inquiet au niveau des jeunes couples chez les sédentaires qui ont l'impression qu'ils s'ennuient l'un l'autre, l'un avec l'autre. Et on a des jeunes couples chez les sédentaires, il leur faut toujours des gens autour d'eux, toujours des gens avec eux, toujours des gens chez eux. C'est malsain. Il faut le contact avec les autres. Mais il y a des temps, il faut savoir s'isoler. Et je dirais même que dans le fonctionnement du foyer, et ça ne sera pas contradictoire ce soir avec ce que je vais dire demain, ça simplement équilibrer les choses, il faut aussi savoir nous isoler. Abraham était un homme assis à l'entrée de sa tente. Maintenant, à quel moment? Pendant la chaleur du jour, sortir, s'occuper de ses affaires, dans ce moment-là, c'était une folie, c'était même dangereux. Pendant la chaleur du jour, on cherchait l'ombre, on cherchait le calme, on cherchait la tranquillité. Abraham s'accorde un temps de sécurité et un temps de sagesse. Et sur le plan moral et spirituel, nous entendons le psalmiste nous dire, au psaume 91, verset 1er, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je crois que notre monde est en train de nous fournir la chaleur du jour. C'est pourtant la nuit qui s'abat sur le monde, mais les choses ne sont pas contradictoires non plus. C'est à la fois la nuit et en même temps la chaleur du jour. Le monde est devenu fou. Fou. C'est la chaleur des vices. C'est la chaleur des convoitises. La chaleur de la corruption. La chaleur de l'infidélité. Dans de nombreuses églises, c'est la chaleur de l'apostasie, des transgressions de la parole de Dieu. C'est la chaleur de l'erreur. C'est la chaleur de l'arrogance. La chaleur de l'amour de l'argent. C'est la folie. Se vantant d'être sage, dit Paul aux Romains, ils sont devenus fous. Si je discerne la chaleur du jour, je vais faire comme Abraham. Je vais dire, Seigneur, j'ai besoin de m'asseoir. J'ai besoin de m'asseoir à l'entrée de ma tente, de m'isoler. Et pendant cette chaleur du jour, je veux m'accorder un temps de sécurité, de sagesse indispensable. Je veux me mettre à l'ombre du Tout-Puissant. Pas seulement à l'entrée de sa tente, on va poser une autre question, mais où était sa tente? Parmi les chênes de Mamré. Le chêne, nous l'apprenons par le prophète Amos, est symbole de force. Il est symbole de longévité. Il y a ce verset dans le livre d'Amos au chapitre 2, verset 9. Les Amoréens dont la force égalait celle des chênes. Si je veux que Dieu me visite et que j'ai une communion intime et profonde avec le Seigneur, j'ai besoin de chercher l'endroit où je vais avoir de la longévité spirituelle et de la force. Non pas désirer une vie chrétienne pour 6 mois, mais une vie chrétienne pour toujours. Non pas une vie chrétienne faible, chancelante, mais une vie chrétienne forte. Et alors j'ai besoin de mes chaînes de Mamré à moi. J'ai besoin de me retrouver là où le Seigneur m'attend, là où je vais pouvoir puiser longévité, longue vie, vie éternelle et force. Or Jésus nous a parlé des chaînes de Mamré. Il a dit la vie éternelle, il n'y a pas plus long que ça. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a le chêne de la parole de Dieu, c'est là que je vais trouver le Seigneur. Il y a le chêne de l'église locale, le chêne de la communion fraternelle, parce que c'est là que le Seigneur envoie la vie pour l'éternité. Psaume 133, ils sont là les chênes de Mamré. Et si je plante ma tente parmi les chênes de Mamré, oui, le Seigneur va me communiquer la vie éternelle et il va me communiquer la force dont j'ai besoin. Celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre qui étend ses racines vers le courant. Si la chaleur est là, il ne la craint pas. Si la sécheresse vient, il ne la craint pas. Et il tient bon, son feuillage est toujours vert. Il tient, il est comme le chêne qui, malgré tout ce qui peut se passer, va demeurer au fil des années. Ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, j'ai besoin de déplacer ma tante, elle était près des roseaux du monde. Je ne sais pas à quel endroit elle était, mais elle n'était certainement pas parmi les chaînes de Mamré. Seigneur, qu'après cette réunion, j'opère un petit déménagement. J'ai besoin d'aller mettre ma tante parmi les chaînes de Mamré. Mamré signifie vigueur et vision. Eh bien, Abraham a reçu les deux. 175 ans. Et tout au long de son pèlerinage avec le Seigneur, que de révélations. Et il en a eu des visions. Celle-là en est une. Même s'il y a des choses concrètes, et j'allais dire presque humaines, à Mamré, mon frère, ma sœur, tu vas trouver vigueur dans le Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force pendant la marche. Et la parole de Dieu dit, ils marchent de force en force. Près du Seigneur, nous trouvons les révélations dont nous avons besoin. Paul priait pour les Éphésiens. Il disait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Il va nous donner la vision dont nous avions besoin. Et si vous lisez attentivement l'Écriture, vous souviendrez que aux chaînes de Mamré, c'est là qu'Abraham avait bâti son troisième autel à l'Éternel. Au chapitre 13, verset 18 de la Genèse, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Plus tard, il est toujours là. Il est toujours là. Il a une constance avec Dieu. Il a un enracinement avec Dieu. Il a une vie d'adoration constante avec le Seigneur. Assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, parmi les chaînes de Mamré, alors l'Éternel lui apparut. L'Éternel lui apparut. Vous lirez le chapitre suivant. L'autre, le petit-neveu. Il n'y aura pas assez de réunions pour parler de lui. Mais lui, il a fait son trou à Sodome et Gomorre. Il fait partie des notables de la ville. Il est dans les papiers du maire. Il fait partie des sages de Sodome et Gomorre. Et vous remarquerez que la visitation de Dieu à Lot n'a rien à voir avec la visitation de Dieu à Abraham. Quand Dieu apparaît à Abraham, il lui parle de vie. Et il lui parle de son plan magnifique. Et il entrevoit le Messie à l'horizon. Parce que dans Isaac qui va naître, il y a le Messie à venir. Et quand Dieu apparaît à Lot, à Sodome, c'est pour lui parler de destruction. Et le Seigneur va nous apporter le message qui convient à la position que nous occupons. Mon frère, ma sœur, même si tu ne reviens pas demain soir à cause de ce que je te dis, ça ne fait rien, je serai heureux de le dire, tu vas entendre ce qui correspond à ta position. Si tu as planté ta tente à Sodome, tu vas entendre parler de destruction. Si tu as planté ta tente parmi les chaînes de Mamré, tu vas entendre parler de vie, de prospérité. D'un plan éternel de gloire, parce que le Messie a une destinée éternelle avec son Église. C'est dans un tel contexte et dans un tel moment que Dieu va visiter Abraham avec tout ce que la présence de Dieu renferme. Et il en est ainsi pour nous. Alors c'est bien différent du temps passé en compagnie vaine, en passe-temps inutile, futile, vain. Je crois que celui qui se plaît dans l'atmosphère du monde ne connaît rien de ce genre de communion avec Dieu. Et ce soir, je suis en train de vous dire et je suis en train de me dire, Seigneur, entraîne-nous après toi. Donne-nous soif d'une vraie vie spirituelle, d'une vraie vie spirituelle, d'une vraie vie enracinée et fondée dans le Christ. Donne-moi la grâce de ne pas jouer aux chrétiens, de ne pas faire semblant d'être chrétien. Donne-moi d'être vrai. Donne-moi une vie profonde avec toi dans ta grâce. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Je crois que ce verset trouve un écho dans les paroles de Jésus. Et je vous les cite. Si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un m'aime, pardon, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Eh bien, la première partie de cette parole de Jésus, c'est ce qu'Abraham a fait. Il aimait le Seigneur et il a gardé sa parole. Il a veillé à marcher dans ses voies. La seconde partie du verset, c'est ce que Dieu a fait pour Abraham. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Parce que nous sommes capables de garder la parole du Seigneur, de nous établir dans le Christ, autrement dit, de mettre notre tente parmi les chênes de Mamré, eh bien le Seigneur va venir. Il va se révéler. Il va habiter en nous. Il va nous communiquer son bon esprit. Alors, visitation de Dieu et communion. Ce soir, je vais vous parler de monsieur, demain soir, je vais vous parler de madame. Mes sœurs, venez demain soir. Il est dit qu'Abraham leva les yeux. Il est là, assis à l'entrée de sa tente. Et à un moment donné, il lève les yeux. Il regarde. Trois hommes sont là, debout près de lui. Et quand il les voit, il va à leur rencontre. Oh, je ne pense pas que le Seigneur visite Abraham parce qu'Abraham le mérite. Je pense que Abraham connaît dans ce moment-là la grâce de la visitation. Et il connaît la grâce de la communion. Parce que quand il arrive au pied de ces hommes, il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Je voudrais vous dire qu'avec le Seigneur, tout demeure grâce. Et que le Seigneur ne nous doit rien. Voulez-vous entendre ça ? Le Seigneur attend que nous remplissions les conditions pour se révéler à nous. Mais quand nous remplissons les conditions, Dieu ne nous doit rien. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Et quand nous remplissons les conditions et qu'il communie avec nous, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Dieu nous dit ce soir, voilà le chemin pour que tu entres dans une communion plus profonde avec moi. Quand tu rempliras ces conditions, et que je viendrai me révéler à toi, ce sera ma grâce. Ce sera ma grâce. Maintenant, il y a la vision. Il lève les yeux, il regarde, et il est dit quand il les vit. Et nous savons que, par la suite de ce texte, il y a trois hommes. On sait par la suite du texte que deux de ces hommes étaient des anges et que le troisième était une manifestation humaine de l'Éternel. Rien que ça. Deux anges et une manifestation humaine de l'Éternel. D'ailleurs, Abraham va le discerner. Au verset 3, il dit « Seigneur » au singulier, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur Abraham ne s'adresse qu'à un seul, et c'est le Seigneur. Et je dis, dans la vision d'Abraham, quelle sensibilité spirituelle et quel discernement. Quel discernement. J'ouvre une toute petite parenthèse, elle ne sera pas longue, mais avez-vous remarqué l'importance du regard dans la Bible? Au fond, c'est un fil conducteur. On peut considérer la Bible comme une histoire de regard. Ça commence mal. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Ça commence par un regard. Et tout capote par un regard. Regardez dans l'histoire d'Israël au moment où les serpents brûlants mordent le peuple et qu'il y a un tas de morts parmi les Israélites. Moïse fait sur l'ordre de l'Éternel un serpent d'airain sur une perche. Quiconque le regardera conservera la vie. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il a fallu que le Fils de l'homme soit élevé. Et notre salut ce soir, nous le devons à un regard de la foi. Celui qui voit le Fils, qui contemple le Fils et qui croit en lui à la vie éternelle. La vie chrétienne, c'est une affaire de regard. Le Seigneur a commencé par nous ouvrir les yeux. Jésus dit à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, je t'envoie vers eux pour que tu leur ouvres les yeux. Donc on se convertit quand les yeux s'ouvrent sur Dieu, sur Jésus, sur la croix, sur nous-mêmes. La vie chrétienne, elle se poursuit par l'illumination de nos yeux. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Paul priait pour que les yeux des Éphésiens soient illuminés, afin qu'ils sachent. Quand une église décline, elle devient aveugle. Tu ne sais pas, Laodicée, que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et dans l'éternité, pourquoi, mon frère, est-ce que tu seras semblable à Jésus? Pourquoi, ma sœur, est-ce que tu seras semblable à Jésus? Parce que tu le verras tel qu'il est. Tout est une question de regard dans l'Écriture. Tout. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quelle vision, quelle clarté de vision. Abraham avait un œil en bon état. Alors la suite, elle me plaît bien. Le gars, il a 100 ans. Sa petite femme, très belle, 90. C'est pas vraiment des jeunes fiancés, hein. 190 ans à eux deux. Regardez bien comment ça se passe. Les trois voyageurs arrivent. Abraham lève les yeux, il regarde, il discerne qui sont ces voyageurs. Comment ça se passe? Il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente. Il court à 90 ans. Il parle avec eux. Il dit, ne vous en allez pas, je vais vous offrir un morceau de pain. On va y revenir dans quelques secondes. Et il est dit, Abraham alla promptement au troupeau. Il court encore. Il choisit un veau tendre et bon. Et puis il entre dans la tente et il dit à Sarah, vite! Allez, 90 ans, c'est pas grave, tu vas faire la cuisine, tu vas te dépêcher. Vite, 3 mesures de fleurs de farine. J'ai bien regardé avec le texte hébreu dans mes documents que j'ai dans ma bibliothèque. 3 mesures de farine, ça fait entre 12 et 20 litres. C'est-à-dire que chacun des voyageurs a pu manger entre 4 et 6 litres de fleurs de farine. Ça savait faire Abraham, hein. Et il dit à Sarah, vite, tu fais des gâteaux, vite. Et il est dit, Abraham courut, il court au troupeau. Quand il a pris le veau, il vient près d'un de ses serviteurs, et le texte dit qu'il se hâta de l'apprêter. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'au moment où le Seigneur visite Abraham, il comprend qu'il n'y a pas une minute à perdre, et il ne faut rien gâcher de tout ça. Alors il court, il est empressé, il est animé du zèle. Si c'était l'épître aux Éphésiens, on dirait qu'il a chaussé les chaussures du zèle de l'Évangile. Il est empressé. Et je m'aperçois que c'est contagieux. Il communique le zèle à sa femme. Il communique l'empressement à sa femme. Hé chérie, vite! Il communique son empressement à son serviteur qui se hâte d'apprêter le veau. C'est-à-dire que l'empressement qu'il y a dans son cœur, il sait le transmettre à toute sa maison. À quelle vitesse morale et spirituelle arrivons-nous aux réunions? C'est une bonne question. À quelle vitesse allons-nous vers la parole de Dieu? Est-ce qu'on y va avec un cœur qui bat aussi fort que nous avons rencontré autrefois notre fiancé? À quelle vitesse allons-nous vers la prière? À quelle vitesse allons-nous vers l'adoration? Disant, c'est le Seigneur. Alors je cours, chérie, vite. On y va ensemble dans la révélation. Il y a les gosses. Alors on les entraîne, on ne leur demande pas s'ils sont d'accord. On les entraîne. Ce n'est pas à eux de commander tant qu'ils sont chez nous, qu'ils profitent de notre toit et de notre assiette. Nous les entraînons. Vite, c'est le Seigneur. Vite, il faut que nous soyons là pleins de zèle. Sans ça, Abraham aurait tout manqué. Lui et les siens. Alors Abraham ne savait pas encore toutes les richesses et les privilèges qui allaient découler de cette communion. Il ne savait pas encore ce qu'il allait entendre. Mais nous, nous le savons avec le recul. La glorieuse promesse renouvelée d'une postérité. Pour la septième fois, là, pour la septième fois, Dieu va rappeler la promesse de la postérité. Il aura la révélation pour Sodome et Gomorre. Et Abraham sent qu'il ne doit rien manquer de cet instant privilégié. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Laisse-moi préparer un petit morceau de pain, et après quoi vous continuerez votre route. Et au fait, je n'ai même pas parlé de ce que je vous avais dit, puisque ce soir c'est adieu. La communion de Dieu qui m'amène à lui donner. Demain, ce sera avec Dieu. Il manquera une réunion. On pourra parler de devant Dieu, l'intercession. Il manque une réunion. Mais au moins, demain, on verra avec Dieu la révélation. Mais ce soir, on va terminer avec ça, ce qu'Abraham offre au Seigneur. Parce que c'est la première chose. Quand nous entrons dans la communion de Dieu, il y a des choses à lui offrir. C'est l'un des aspects de notre communion avec Dieu. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Écoutez-moi bien. Le lavage des pieds, c'était une coutume en Orient. Marcher en sandales. Les chemins étaient poussiéreux. Quand l'invité arrivait chez vous, il arrivait avec des pieds remplis de poussière. C'était l'élémentaire de l'accueil oriental que d'apporter de l'eau pour laver les pieds de notre hôte. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici au chapitre 18 de la Genèse la première mention dans l'Écriture de cette pratique. C'est la première fois qu'il est question ici du lavage des pieds. Et on a remarqué que quand l'Écriture parle une première fois de certaines choses, elle donne la clé de sa signification. Donc ici, non seulement c'est la première mention du lavage des pieds, mais on a la clé de la signification. Ce sont deux anges et le Seigneur. On ne peut pas parler de purification. Le Seigneur n'a pas besoin d'être purifié. Il y a quelque chose d'autre derrière ça, qui démarre ici, dans le lavage des pieds. C'est le rafraîchissement. Et le service dans l'amour. Quand Nabal est mort et que David arrive pour proposer à Abigaïl, la femme de Nabal qui vient de mourir, de devenir sa femme, elle accepte et elle dit « Je serai la servante des serviteurs de mon Seigneur pour leur laver les pieds. » Elle entre dans l'union, dans une relation d'amour avec le roi Et la première chose dont elle fait mention, c'est un service de rafraîchissement et d'amour en lavant les pieds. Regardez là cette femme pécheresse qui a appris que le Seigneur prend un repas chez le pharisien. Elle arrive là au pied du Seigneur, elle pleure sur ses péchés, sur sa vie souillée. Elle mouille de ses larmes les pieds du Seigneur. Ce n'est pas deux ou trois larmes de crocodile, elle mouille les pieds du Seigneur. Et elle les essuie avec ses cheveux. Il y a bien des femmes aujourd'hui sédentaires qui auraient du mal pour essuyer les pieds du Seigneur avec leurs cheveux. Et Jésus dit, mais elle a fait ça parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc elle, non seulement elle a lavé les pieds du Seigneur avec ses larmes, mais là encore on voit que c'est un service d'amour. Quand il vient à nous pour sa communion, il attend que nous lui offrions du rafraîchissement, du repos, et que nous le servions dans l'amour. Je dirais, j'ai besoin d'offrir du rafraîchissement au Seigneur ? Oui. J'ai besoin, moi, d'apporter du repos à Dieu ? Oui, et je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Il y a des vies chrétiennes qui ne donnent pas de repos à Dieu. Il y a des vies chrétiennes qui ne donnent pas de rafraîchissement à Dieu. Seigneur, je veux faire comme Abraham. Tandis que tu me visites, je vais être celui qui lave les pieds. Alors après, je l'ai souligné, fleur de farine entre 12 et 20 litres, un veau, pas comme de la carne endurcie, un veau tendre et bon. Je pense qu'Abraham était normand, il apporte du lait. D'autres traductions disent du caillé, d'autres traductions disent du beurre, de la crème. Écoutez, la crème et le lait, c'est la Normandie, ça. Et alors j'aime bien parce qu'il amène entre 12 et 20 litres de fleurs de farine, du lait, de la crème à un veau, et il dit, voilà, je vous apporte un morceau de pain. C'est un peu comme les repas de gitans, quoi. Quand un frère gitan me dit, bah, avant la réunion, tu vas manger un morceau chez moi, je lui dis, oh là là, quel morceau ça va être, Seigneur. Vous savez bien, vous riez, vous le savez. C'était d'une manière délicate pour Abraham d'offrir un repas complet au Seigneur et à ses anges. Et vous remarquez qu'il n'a pas lésiné sur la quantité et il n'a pas lésiné sur la qualité. C'était savoureux et abondant. Et tout ce que nous offrons à Dieu devrait être le meilleur et le plus abondant, tout en nous disant bien que tout ce qu'on va apporter de plus abondant à notre Dieu ce soir et de meilleur, ce ne sera qu'un morceau de pain. Il faut le faire avec humilité. Dire, Seigneur, si je peux t'apporter certaines choses ce soir, qu'est-ce que c'est en comparaison de la croix, en comparaison du ciel que tu as quitté? Ce soir, offrons notre vie à Dieu pour la sainteté, pour la consécration, pour l'obéissance, pour le renoncement. Demain, on verra la suite, mais je voudrais terminer avec la fin du verset 8. Les trois voyageurs sont là, deux anges et l'Éternel, et il est dit d'Abraham qu'il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Il y a une version qui précise, il se tenait debout auprès d'eux sous l'arbre. C'est une coutume aujourd'hui encore chez les Arabes, quand un cheikh arabe a un hôte de distinction, il se tient debout près de lui pour le servir. Et je crois que c'est ce qu'implique la visitation de Dieu et sa communion. Seigneur, ce soir, à l'écoute de tout ça, finalement, je ne suis pas très fier de ce que je suis. Je crois qu'il y a un appel de ton esprit dans mon cœur. J'ai besoin de venir là, à tes pieds, de revoir des choses. J'attends des choses, je prie pour certaines choses et je comprends qu'elles n'arriveront jamais si je ne change pas de cap. Je comprends les conditions pour que tu m'apparaisses, pour que tu me visites. Alors ce soir, je veux courir à ta rencontre. De dire, Seigneur, fais-moi grâce. renouvelle mon ministère, renouvelle mon église, renouvelle mon foyer, renouvelle ma vie, et que ces quelques heures que nous avons ensemble puissent permettre un nouveau départ, puissent permettre quelque chose de nouveau avec ta grâce. Nous allons nous recueillir quelques instants, courber nos fronts et prier le Seigneur.